Olivier Ledroit, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, comment définiriez-vous votre nouveau roman graphique qui s'appelle Le Troisième Œil et dont le premier tome vient de sortir, et ce sera une trilogie?
En fait, j'avais envie de faire une sorte de polar ésotérique. Dans le premier tome, c'est surtout initiatique.
Oui.
Et dans les suivants, ça va un petit peu tourner au polar et un récit un petit peu apocalyptique. Je sais pas après quel mot à mettre spécialement sur ce type de récit, quoi. Mais disons que j'avais envie d'avoir une histoire comme ça qui soit un prétexte pour aborder tout un tas de sujets qui m'intéressent. Et puis pouvoir faire aussi toute une bande dessinée réaliste sur Paris.
Très bien. Est-ce que vous avez déjà tout dessiné ou en tout cas tout planifié, ça c'est sûr? Quel sera l'échelonnement du tome 2 et 3, par exemple?
Le tome 2, il est très avancé, là, donc je peux donner une date. Hein, ça va être, on pense, avec l'éditeur, sortir fin septembre de cette année. Pour le tome 3, c'est plus compliqué, parce que je vais reprendre la série Requiem. Et puis, j'ai aussi un recueil d'illustrations érotiques qui est racheté par les éditions Glénat. Donc, ça va être Belle de nuit, on va le réimprimer. Et une fois que j'aurai fini tout ça, je me remettrai au troisième tome du Troisième Œil. Donc ça me fait une sortie, je pense, en 2024, quelque chose comme ça.
Petite digression avant cela, peut-être que vous aurez eu des retours peut-être aussi des lecteurs et des médias.
Oh, mais j'en ai déjà hein, pas mal, ouais. Hein, je fais quelques dédicaces malgré tout.
Alors comment est reçu justement ce premier tome?
Ben, c'est assez clivant. Il y a des gens qui rejettent complètement et d'autres qui aiment beaucoup. Alors, moi, je prends toujours ça comme quelque chose qui est plutôt bon signe. Hein. Ça veut dire que ça touche les gens en positif ou en négatif, mais ça les laisse pas indifférents.
Ouais. Bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le héros de votre roman graphique, donc le Troisième Œil, je rappelle, s'appelle Michael Alphange, donc déjà tout un programme. Et il est, par nécessité et force des événements, poussé sur la voie royale. C'est un terme plutôt alchimique, en quelque sorte. Il est poussé donc sur la voie royale pour accomplir sa destinée. Pourquoi? Parce que, en fait, en prenant des substances psychoactives, s'ouvre son troisième œil, et du coup, il a des perceptions extrasensorielles qu'il a du mal à maîtriser, presque. Concernant donc cette voie royale, elle semble égale dans votre roman graphique à la voie du guerrier spirituel. Et là, j'entends guerrier spirituel au sens peut-être sorcellerie de Carlos Castaneda, que vous connaissez sans doute.
Oui, oui, oui. On en parlait juste avant dans Xoko. Xoko, c'était très inspiré de Carlos Castaneda. Bon, je pense que dans pas mal de traditions, c'est un petit peu pareil. Il y a comme ça un rapport entre le martial et l'éveil, quoi. Et l'image du guerrier revient constamment, quoi. À la limite, même plus que celle du sage, hein, ou du prêtre, quoi.
Effectivement, en lisant quelques-uns de ses livres, il parle de certaines visions comme la forme ovoïde qu'on retrouve un peu dans votre BD, les êtres inorganiques que vous dessinez aussi, donc ça c'est tout ce qui concerne plus ou moins l'invisible auquel on a du mal à avoir accès. Et en termes prophétiques également, puisque l'enseignement de Castaneda, c'était pour un peu changer l'axe du monde, en tout cas le rénover en profondeur. Il y avait cette dimension comme ça, presque, d'amener quelque chose de positif à l'humanité.
Castaneda, j'ai lu ça il y a une trentaine d'années, donc en fait j'ai un petit peu oublié, ça a été digéré quoi. Je me suis pas calqué sur ce que j'avais lu à l'époque parce que je m'en souviens plus très bien, mais plutôt sur l'impression générale quoi. Et c'est vrai que toutes ces histoires de visions psychédéliques, etc., c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Mais bon, après, moi, j'ai une approche artistique et graphique. Mais c'est quelque chose de difficile à retranscrire sans être kitsch, quoi. Donc, moi, il m'a fallu pas mal d'années, en fait, avant de me lancer là-dedans, parce que j'avais la technique pour pouvoir le représenter. Après, sur le thème de l'amélioration du monde, là, dans cette histoire, et puis bon, bah moi, ce que j'en pense hein, personnellement, c'est que je ne sais pas si ça améliore le monde ou si c'est simplement un cheminement personnel, quoi, individuel, je pense. Pour moi, le monde, il est lancé dans quelque chose sur lequel on n'a pas prise, quoi. C'est plutôt quelque chose qui a un caractère vraiment personnel et individuel, quoi.
Vous nous dépeignez dans ce volume à Paris, donc ésotérique, un peu occulte, j'allais dire presque réservé à des initiés, parce que c'est vrai que C'est un pan de la littérature ésotérique très particulier, qui sans doute d'ailleurs vous intéresse, vous allez nous en parler, mais du coup, il y a aussi la dimension un peu orwellienne de notre société qui est présente dans certains de vos dessins, des affiches comme ça qui parcourent les rues, des citations en amont de certains chapitres, et aussi l'invisible, donc vous parlez des logos de certaines entreprises qui sont employées à certains dessins auxquels on n'a pas forcément accès, et aussi des entités éthériques ténébreuses que vous représentez, donc l'invisible. Et donc, moi, ma question, c'était quelle était la part de projection et de fiction dans cet univers presque apocalyptique que vous nous soumettez?
Je dirais presque 50-50, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai inventées de toutes pièces. Oui. Et puis après, je me suis pas mal documenté. Tout ce qui concerne le Décamanus de Paris, qui est quand même un des thèmes principaux de l'histoire, ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal intéressé. Moi, je vis en Bretagne, du côté de Carnac. J'habite pas très loin, d'ailleurs. Et il y a beaucoup de menhirs ici. Et on voit que c'est quelque chose qui traverse les âges, quoi. Et un peu à toutes les époques, il y a des gens qui ont amené leur pierre à l'édifice, quoi. Dans l'histoire, j'en parle un petit peu, ça se conclut là un petit peu avec Mitterrand, quoi. Mitterrand, dans ses grands travaux, il y a une continuité sur tout ça, parce que à Paris, a priori, il y avait des menhirs, il y a eu après des temples égyptiens, des sérapéums, des choses comme ça, je crois même des temples de Mitra. Il y a comme ça une sorte de généalogie, quoi, même si je suis pas persuadé que ce soit une généalogie directe. Mais les générations successives ont contribué à construire cette ville, quoi. Et on voit par exemple avec Mitterrand, c'était plutôt une sorte d'acte de foi, je pense, la pyramide et puis l'Arche de la Défense aussi. C'est des représentations un peu divines. Mitterrand, il s'est toujours défendu d'être franc-maçon, mais a priori il était initié, quoi. Donc, je pense qu'il était même sans doute un méditant. Il y a pas mal de témoignages sur lui. Qui parle de sa foi, du fait qu'il s'isolait avec ses boules-quies dans son bureau. Donc, je pense que oui, lui, c'était clairement un initié, puis peut-être même un illuminé, quoi. Et que, pour toute sa présidence, il a voulu marquer la capitale de sa croyance, quoi, de sa foi. Même si c'est en filigrane, c'est quelque chose que je voulais placer dans l'histoire. Le fait que c'est pas uniquement contemporain ni médiéval, mais ça vient vraiment du fond des âges, quoi.
Cette référence peut-être un peu plus apocalyptique. Enfin, je sais que par exemple la BD ouvre avec une très belle image d'un ange avec sa trompette, le chauffard.
D'accord, oui, c'est Gabriel même.
Oui.
Oui, il y a une dimension apocalyptique, oui. Oui. Parallèle, moi j'ai dans l'idée de faire un livre d'illustration justement sur l'apocalypse de Saint-Jean, quoi. Donc mon idée première, c'était de faire l'enfer de Dante. Et puis j'en parlais avec un copain dessinateur, Philippe Druyet, et puis lui il me disait moi je vais faire l'enfer de Dante. Donc j'ai bifurqué sur l'apocalypse, quoi. Et du coup, je me suis intéressé au sujet pour les apocalypses dans différentes religions, etc. Puis ouais. Il y a beaucoup de points communs. Et il y a toujours ce personnage qui revient comme ça d'une sorte de guerrier invincible qui prépare le terrain de l'élu, quoi, du messie un petit peu. Chez les taoïstes, il y a ça. Chez les hindous, il y a comme ça un destructeur de monde qui arrive à la fin, qui punit les corrompus. Puis comme tout le monde est corrompu, en fait, il tue presque tout le monde, quoi. Hein, donc, on a ça dans l'islam avec le Mahdi, etc. Oui, ouais. Donc, je voulais un personnage comme ça, qui soit une sorte d'avatar, de ce personnage du guerrier sacré qui revient comme ça dans toutes les apocalypses, quoi. D'accord. Et moi j'ai une vision un petit peu funeste de notre époque. On se dirige, à toute blinde vers quelque chose de catastrophique. C'est pareil, ça sera peut-être plutôt dans les tomes suivants que je vais développer un petit peu. Je veux dire, depuis l'âge de Pierre, quoi, quand on est passé au patriarcat, on est passé à la guerre, quoi, et depuis il y a une montée en puissance quand même de tout ça, et moi je sais pas dans combien de siècles ça va s'arrêter, mais ça va être terrible, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est de pire en pire à chaque époque, donc
il y a une image qui me revient à l'esprit dans votre BD, c'est, je pense, une affiche derrière le héros, donc Michael Alphonse, et c'est marqué monarque, et on voit une puce RFID entre deux yeux.
Oui, par exemple.
Ouais, voilà.
Par exemple.
Ouais. Là, ça concerne plutôt les nouvelles technologies.
Je pense qu'on se dirige vers quelque chose comme ça, quelque chose d'assez cybernétique, d'assez déshumanisé, quoi, oui, mais présenté comme quelque chose de plutôt sympa, quoi. Mais, oui. Je sais pas, moi, tout le monde voit les robots de Boston Dynamics, tout le monde trouve ça sympa, mais quand ils seront dans les rues en train de nous fliquer, ça va être beaucoup moins drôle, hein. Et quand on les enverra faire la guerre, ça va pas être drôle pour les civils non plus, hein. Donc, moi, je pense qu'on s'avance vers quelque chose comme ça, d'apocalyptique, quoi, tout simplement. Et ça me fait peur, quoi. Concrètement, hein, ça me fait peur. Parce que j'ai des enfants, j'aurai ouais. probablement des petits-enfants. Je pense que c'est des choses qui vont vivre, malheureusement.
Une nouvelle question, vous nous invitez donc dans cette BD. Vous nous faites voir l'invisible, en quelque sorte. Alors, tout ce qui est le royaume de Laura, les corps éthériques, mais aussi les égrégores, les éons, parce que vous balayez, en quelque sorte, tout l'univers, puisque le héros va vivre une forme de renaissance. Hein. Donc, cette vision de l'esprit spirituelle, vous est-elle coutumière ou récente? Je pense notamment à la préface de Jean-Michel Nicolet, qui parle un peu de vous, comme ça, comme quelqu'un qui récemment s'intéresserait plutôt à quelque chose de plus lumineux.
Ah, disons que j'ai fait des séries tellement noirâtres que il trouvait que cet album était quand même assez lumineux.
Ouais. Voilà.
Après, pour revenir un petit peu en arrière sur la question, moi, d'un point de vue d'auteur, d'artiste, hein, parce qu'avant tout, moi, ce que je veux faire, c'est une œuvre d'art. J'avais envie d'illustrer Paris avec tous ses ectoplasmes, etc., comme on pourrait le voir dans un Miyazaki ou oui. un reportage sur les fonds marins, quoi. Hein, donc quelque chose qui soit très beau, comme ça, amener une sorte de féerie dans ce quotidien, quoi. Le personnage, au tout départ, donc, de l'histoire, l'univers pour lui s'illumine, hein. Tout est plus beau, il voit des choses merveilleuses.
Mais est-ce qu'il y a une part de vécu aussi un peu là-dedans, ou c'est purement artistique?
Non, c'est purement artistique, okay. Ouais. Ensuite, il y a toute la scène de Paris ou pas. Là, je me suis bien éclaté parce que j'avais vraiment envie de dessiner tous ces lieux mystiques de Paris. Et surtout, il y a toute la grande scène d'illumination. Mm-hmm. Où là, moi, je m'étais toujours promis de faire un jour quelque chose comme le voyage au-delà de l'infini dans 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick. Ouais. Et il y avait aussi un roman, La maison au bord du monde de Hodgson. Mmh. Où le personnage, comme ça, s'assoit au bord d'une fenêtre et là, il fait un voyage au-delà du temps. Le temps s'accélère et donc c'est pareil, c'est une séquence complètement hallucinée, quoi. Mmh. Et ça, j'avais envie de le retranscrire dans une séquence BD très construite. Parce que là, il y a toute une progression par rapport à la taille, à la forme des cases, etc. En fait, j'ai réussi à placer pas mal de choses qui, moi, m'intéressent, quoi. Le fait que les astres, les galaxies sont peut-être comme des entités, quoi. Et que tout ça est sous-tendu par une force et qu'on est dans une sorte d'univers à boucle, comme ça. Mmh. Parce que le héros part vers l'infiniment grand et revient à lui par l'infiniment petit, comme ça. C'est des choses qui, scénaristiquement, sont un petit peu décalées par rapport à une histoire policière où on va pas mettre une scène comme ça de 25 pages en introduction, pratiquement. Mais j'y tenais pour donner un petit peu l'ampleur du récit et puis un côté comme ça cosmique, universel, quoi.
Il y a Maurice Dantec, qui, donc le romancier, qui oui. avait cours à ce genre de digression, vous connaissez, oui.
Maurice Dantec, il y a une citation de lui à l'introduction du chapitre 6. Oui, il était un petit peu mystique aussi, sur la fin d'ailleurs. Et c'est vrai que un petit peu avant d'avoir d'écrire le scénario, je venais juste de lire les Racines du Mal d'ailleurs. Et c'est un auteur qui m'avait bien inspiré parce que les thèmes m'intéressaient, mais il y avait aussi une recherche de style littéraire. Moi, je trouve qu'il écrivait superbement bien. Mm-hmm. Alors bon, moi, c'est mon premier livre, donc j'ai essayé aussi d'avoir un niveau comme ça, un niveau littéraire aussi dans tous mes textes, quoi. Que ce soit beau à lire, quoi.
Mais là, c'est la première fois que vous, parce que vous êtes le seul donc pour cette BD, il n'y a pas de collaboration. Du coup, vous en êtes donné à cœur joie, mais c'est vous qui écrivez aussi les textes, c'est ça?
Sur celui-là, oui.
Oui. Donc c'est entièrement 100% de votre univers, en quelque sorte.
Oui, voilà, c'est ce qui change beaucoup. Moi, j'ai toujours travaillé en collaboration, donc je participais au scénario, mais par exemple, j'y participais pour donner des idées, pas pour la construction, ni pour l'élaboration des dialogues. Ça m'arrivait d'écrire des petits bouts de dialogue. En fait, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est j'ai eu un souci avec mon scénariste sur la série Wicca et j'ai dû finir tout seul. Donc j'ai été un peu pris au déboté, puis j'ai fait comme j'ai pu, et puis bon bah comme je m'en suis tiré et puis que j'y ai pris plaisir, quoi, surtout je me suis dit que pour la série suivante je la ferai tout seul, et puis c'est vrai que en fait avec ses qualités et ses défauts, moi ça exprime ce que j'ai envie de dire moi personnellement. C'est vrai que quand on arrive dans des choses comme ça, des réflexions plus intimes, c'est souvent plus facile tout seul qu'avec un scénariste.
Oui. Oui, alors justement, réflexion quasi métaphysique, et ce premier volume en tout cas d'un futur triptyque, donc vous le disiez, peut-être aussi perçu, vous me le direz, comme un récit d'initiation donc au corps de lumière. Alors ça c'est au sens ésotérique chrétien du terme, le corps de lumière, mais on peut aussi parler en alchimie de transmutation du plomb en or. Et on peut aussi parler, c'est les ésotéristes de tous bords qui vont parler de l'accès à l'immortalité de l'âme, presque. Donc, est-ce que ce sont des sujets qui vous interpellent au point de devenir pour vous une quête existentielle, par exemple ?
Oui, ça fait partie des choses qui m'intéressent dans la vie. Bon, il y a d'autres dimensions dans la vie qui m'intéressent aussi.
Oui, bien sûr.
Et celle-là, oui, oui.
Et donc, il y avait cette volonté, justement, de, parce que vous le placez au centre du récit, presque ce récit d'initiation. Enfin, le premier volume, en tout cas, tourne autour de ça, mais vous disiez que les autres volumes, les deux suivants, le deuxième allait plus être un polar, c'est ça?
Oui, disons que ça va plus partir dans le meurtre, comme dans la toute première séquence. Hein. Puis, ça va parler aussi d'entités démoniaques, de choses comme ça. Donc, d'un autre côté, il y aura plus d'ombre, mais il y aura plus de lumière aussi, parce que dans le second volume, il y a une histoire d'amour qui commence. Donc, il y aura les deux encore accentués. Et le troisième tome, lui, ça sera beaucoup plus sombre, quoi.
Donc, le héros, il renaît. C'est une forme de renaissance par un rituel initiatique occulte. Alors, il renaît à quoi? À une parcelle divine, un grain cosmique. On pourrait appeler ça aussi un... Il renaît à une forme de centre énergétique en soi, c'est-à-dire qu'on le voit auréolé d'une aura, d'un corps peut-être de lumière, il a peut-être touché à quelque chose de l'ordre de l'immortalité. Enfin, en tout cas, vous touchez là, presque, à mon sens, au cœur de la religion, donc au sens être relié hein, du terme, et à une finalité essentielle de l'essence, hein, que seuls certains élus peut-être atteignent. Alors, le fait que le héros s'appelle Michael Alphonse, alors moi, j'avais noté dans Alphonse, il y a moitié ange, peut-être, je sais pas. Et du coup, est-ce qu'il y a un message codé dans cette œuvre? Vous parliez tout à l'heure d'une sorte de guerrier comme ça qui serait le précurseur du Messie. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus?
Oui, c'est ça, hein, tout à fait. Parce que dans l'Apocalypse de Jean, le guerrier, c'est l'archange Michael. Donc, là, il y a un gros clin d'œil à ça. Et c'était cette idée de guerrier qui se découvre à lui-même, quoi, parce que à l'origine c'est pas un type très agressif, quoi. Et même c'est marrant parce que ma femme et puis pas mal de gens qui ont vu la BD en amont trouvaient qu'il ressemblait un petit peu trop à Jésus, quoi. Mais justement, au cours du récit, il va avoir quand même une métamorphose, ce personnage. Il va beaucoup se durcir. Il va passer de l'innocent à quelqu'un de plus agissant, et puis qui est un petit peu sur le fil du rasoir, quoi, qui se demande tout le temps s'il va pas sombrer, voilà, basculer dans quelque chose de plus obscur.
Hein. Alphonse, est-ce qu'il y a un lien avec l'ange, par exemple, moitié ange?
Oui, au lieu de dire archange, j'ai fait Alphonse, quoi, alpha et ange.
Ah, d'accord.
C'est un clin d'œil. D'ailleurs, tous les personnages, pour ainsi dire, vont avoir des noms qui auront une connotation un petit peu comme ça, sous forme de clin d'œil à différentes traditions. Hein.
Pour moi, ce premier volume aurait pu suffire à lui-même, nonobstant peut-être les deux premières pages, puisqu'effectivement, on peut le révéler, il y a une forme de décapitation, mais effectivement, ça prend sens s'il y a des volumes supplémentaires, mais j'avais l'impression que ce premier volume, en soi, pouvait se suffire presque.
Oui, mais j'ai un petit peu construit les trois tomes de la même manière. Ça fait partie d'un ensemble, mais ça va être des entités comme ça qui auront leur propre rythme, leur propre couleur et puis leur propre ambiance qui vont trancher d'un tome à l'autre. Je voulais comme ça une histoire en trois facettes, trois parties.
Eh bien écoutez, on a hâte de découvrir la suite. On va inviter tous ceux qui n'auraient pas encore lu cette première partie à la découvrir tout simplement parce que en soi, c'est une œuvre, enfin, que moi j'ai trouvé très aboutie et fantastique dans tous les sens du terme. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Donc, je voulais vous remercier pour ce travail, cette œuvre. Et puis, du coup, on va suivre la suite des événements.
Ah, mais j'espère. Ouais. Là, le deuxième tome, j'en suis à peu près aux trois quarts et j'ai hâte qu'il soit édité aussi pour voir un peu ce que le... Parce que pour moi, c'est une découverte aussi. Quand on écrit aussi, j'ai l'impression de plus me mettre à nu que quand je dessine simplement, quoi. Parce que le dessin, moi, j'ai toujours eu un peu une petite virtuosité, quoi. Donc, j'avais pas peur. Tandis que là, il y a une prise de risque quand même supplémentaire, quoi.
Est-ce que tout est déjà écrit ou est-ce que vous découvrez aussi, il y a une part qui est découverte au fur et à mesure dans l'écriture?
Alors, disons que le squelette de l'histoire, lui, est entièrement écrit. Toutes les scènes sont écrites. Maintenant, ça va se jouer plutôt... Il y a des petites variations dans les dialogues. Et puis, j'ai réagi aussi par rapport à ce que m'ont dit les lecteurs, à ce que me dit mon directeur de collection. Donc, là, après la sortie du tome 1, ouais, j'ai fait des petites modifications sur le... pas mal de modifications pour le tome 2, à vrai dire. J'avais fait un récit où il y avait moins d'action, quoi. Il y aura un petit peu plus d'action. Et puis aussi, j'ai vu que les doubles pages de Paris, c'était pas prévu qu'il y en ait autant dans le scénario de départ. Ouais. Mais moi, je m'éclate bien à les faire. Et puis, je vois que les lecteurs, ça leur plaît beaucoup aussi. Ouais. Donc, ça donne souvent, entre deux scènes, ça donne une ampleur au récit que j'aime beaucoup. Donc là, c'est vrai qu'il y a un petit côté évolutif dans le style, en fait. Dans le fond et dans la conclusion et le message de l'histoire, un petit peu moins, mais en fait j'ai déjà écrit, je sais pas moi, 6 ou 7 fins différentes, et en fait c'est selon la fin, je modifie un petit peu quand même les tomes précédents, quoi.
Eh ben super, merci Olivier Ledroit pour cet entretien, et puis bon courage pour la suite.
Très bien, ben merci beaucoup.